Bienvenue sur Horizon. Quand un bouleversement offre de nouveaux possibles. Une émission présentée par Justine et RL, un mardi par mois, de 20h à 21h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis RL et je suis en compagnie de Justine qui se trouve à la régie.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons Juliana.
Hello.
Elle a 21 ans et elle est originaire d'Ukraine. Juliana a déjà un parcours très riche et diversifié. Elle va nous raconter comment différentes expériences qu'elle a vécues l'ont façonnée. Vous écoutez actuellement la seconde partie de l'épisode de Juliana. Vous pouvez retrouver la première partie sur les plateformes ou sur le site de Radio Campus Angers. Donc, tu as été accueillie par ta famille à Cholet, mais à un moment donné, pour que toi, tu puisses redevenir bien et toi-même, tu t'es dit, il faut que je parte de cette famille.
Oui. Et donc, dans cette situation, il y avait des choses qui m'ont aidé à encore plus me rendre consciente du fait que c'est un peu problématique, que je ne suis pas moi-même. Première, c'est les visites à Paris. Donc, moi, je suis une fille qui a vécu tout le temps dans les villes très grandes telles que Odessa ou Kiev. T'as plusieurs millions de personnes qui habitent dedans et dans les banlieues. Donc, j'avais du mal avec Cholet, j'avoue. Et à chaque fois que je venais à Paris, je m'éclatais au fond. Et là, ceux qui n'aiment pas Paris, moi, je suis tellement habituée de glisser dans le métro comme un ver de terre, ressauter en haut, de faire des machins,
plein de bruit, plein de déplacements. Et que ça grouille autour de toi.
Et que ça grouille et que minimum, t'as 20 minutes de marche à pied quand tu tapes sur Google Maps. C'est tout moins. Donc, quand j'étais à Paris pour la première fois, c'était en fait, quand on est arrivé, on était d'accord, avant encore que la famille part en vacances, qu'on doit trouver aussi quelques jours où rester à Paris encore avant notre arrivée. Donc, nous, en avance, on a trouvé une oppositionnaire russe qui accueillait les personnes différentes.
En transition, quoi. Enfin...
Oui, de sortie de conflit de guerre, etc. Elle était engagée dans un assaut pour aider aux Ukrainiens. Donc on a trouvé Yel. C'est une personne non binaire. Et donc on est resté quelques jours là-bas et on a pleinement profité Paris, même avec Yel. Il nous a partagé beaucoup des endroits magnifiques. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que Paris, c'est aussi bien que dans mes attentes. C'est comme j'attendais, je savais que ça sera parfois sale, parfois plein de monde, parfois plein de bruit. Et c'est aussi génial, parce que t'as tellement des choses à découvrir, à faire. Et tellement des endroits artistiques aussi, ce que j'adorais. J'adorais voir des petites expos, des petits cafés artistiques, des petites librairies. Moi, c'était mon kiff en Ukraine. Donc là, Paris, j'étais vraiment très ravie.
T'étais un peu moins dépaysée qu'à Cholet.
Beaucoup, beaucoup moins. Même, il faut dire que pendant mes quelques journées ou quelques semaines plus tard, pendant les vacances, d'ailleurs un autre sujet, à Paris, j'avais trouvé des copains instantanément. Et vraiment des personnes comme moi, des artistes, des zinzins, des zinzines. J'ai beaucoup kiffé. On avait fait des choses un peu à la fou. On sortait au bar, on pouvait voir un concert... que leurs amis faisaient, des trucs comme ça. C'était une ambiance dans laquelle je me suis plongée immédiatement. On dirait que j'étais chez moi, quoi. Et donc, pareil, quand la famille d'accueil est partie en vacances, je devais trouver où se loger avec ma sœur. Donc, on a trouvé par une appli, vraiment en flèche que j'avais depuis l'enfance. Je sais pas comment, je me suis rappelée de ça, mais dans une émission télé ukrainienne, t'avais une meuf qui utilisait tout le temps un appli pour trouver un site internet à l'époque parce qu'il n'y avait pas des applis pour trouver des logements court terme pour les voyageurs. Ça s'appelle Couchsurfing. D'ailleurs, crédit à cette application si quelqu'un veut utiliser. Donc tu mets une annonce comme pour la famille d'accueil, pareil. Donc j'avais déjà l'expérience. Je mets une annonce que je cherche à être logé quelques jours à Paris. Et donc on a tombé sur plein des annonces différentes, bien louches, pas louches. Il fallait faire la tri pareil qu'avec des familles d'accueil. Et finalement, on a choisi un petit monsieur très sympa, extrêmement cultivé. Alors, jusque-là, un très proche ami à moi, malgré un énorme écart d'âge, c'est l'âge de mon papy. Michel. On a passé un petit peu de temps chez lui pendant les vacances et après, on était tout le temps bienvenu chez lui. En fait, il aime bien accueillir des touristes et aussi, il fait la coloc chez lui. Et à chaque fois que... depuis, je sais que je peux revenir à Paris, je sais que je suis bienvenue et je sais que je vis vraiment l'expérience des touristes parisiens pro max. Je me plais. Et parfois, ça les jours quand j'étais mal à Cholet, je repensais à ça. Et je me disais, un jour, il faut quand même que je parte dans la plus grande ville, même si ce ne sera pas pareil que dans... Comme quand je suis en mode touriste à Paris, je sais que ce sera plus difficile, mais quand même, je veux faire des sacrifices pour pouvoir au moins être un peu plus exposé à ces expériences des vivre dans une grosse ville française. C'est cool, c'est vivant, il y a tellement de choses.
Oui, en fait, tous les petits séjours que tu as pu faire à Paris, ça a nourri ton envie de quitter Cholet.
Ah oui.
Et de quitter ta
carrément,
famille.
Oui.
Et jusque-là, en juillet 2025, où du coup, il y a... quand même un point de rupture puisque tu arrives à obtenir un logement étudiant sur Angers.
Oui.
Et à pouvoir partir.
Oui. Et du coup, la deuxième chose qui me exposait au fait qu'il faut que je parte, c'est ma sœur. C'est vraiment, je conseille à tous qui veulent devenir parents de faire deux enfants. Avoir un frère ou sœur, ou sœur et sœur, ou frère et frère, c'est tellement incroyable comme expérience. Donc, je pouvais la voir comme mon miroir un peu. On était tout le temps très attachés et tout. Donc, Mariana, c'est une personne très ambitieuse comme moi et elle voulait tout le temps poursuivre son métier de chanteuse. Sauf que là, j'ai vu que clairement, Ashley, quand elle avait trouvé juste un taf simple et tout, on avait l'impression qu'elle va se figer dans la vie tellement simple qu'elle ne va plus chercher des opportunités. Que moi-même, je me posais la question, qu'est-ce que moi, je peux devenir aussi en vivant dans cette petite ville ? Que, en fait, bah, évidemment, déjà, c'était clair. Mais pour les artistes, bah, c'est la mort, quoi. Donc, Mariana, maintenant, elle a gravement réussi à faire ce qu'elle veut. Mais juste, quand même, cette passage au début où on n'avait rien et on avait peur que si on reste dans le même endroit, on va stagner. Et le fait d'avoir ma sœur à côté qui vivait la même expérience, bah, ça m'a permis d'avoir un bon recul aussi. Donc après, juillet 2025, j'ai eu mon appartement, troisième année design. Donc là, en fait, j'avais une rupture de relation en plus avec quelqu'un des familles d'accueil. Tralala. Donc ça se passait très mal pour partir. C'était fait dans genre quelques semaines.
Ça a été précipité
et il avait une tension déjà bien des mois avant, je pense. Je n'aimais pas la façon dont la dame d'accueil parlait à ma mère, la traitait, parce que ma mère, elle était venue par notre initiative.
Oui, elle venait d'arriver en France
et il avait tellement des vices dans ce que la dame d'accueil disait envers ma mère, en mode non, mais il ne faut pas qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. Et puis, vous n'avez pas pensé, mais il faut qu'il fasse ça aussi. En mode, vous auriez dû penser. Et moi, j'y pense. Et moi, je suis le seul cerveau de situation, quoi. Mais non, en fait. Et ça nous avait donné tout le temps la pression. Et en fait, en face de ma mère qui perd carrément sa légitimité dans le monde professionnel, dans sa carrière, et c'est une femme très carriériste qui reposait beaucoup sur son travail, vu que c'est une mère divorcée depuis longtemps. Je trouvais que c'était même dégradant de dire des choses comme ça, parce que ma mère, elle vit déjà du mal par rapport au fait qu'elle a perdu tout en arrivant ici. Mmh. Elle doit tout refaire, reconstruire dans sa cinquantaine. Là, c'est dégradant la manière dont elle parlait parfois. Et même par rapport au père de mon beau-père dans la guerre et tout, c'était quand même bien blessant. Et même le fait que je me rendais bien compte maintenant qu'on n'est vraiment pas redevable à tel point que j'imaginais avant.
Que tu dois subir des choses blessantes quotidiennement.
Je dois pas subir, je dois pas subir non plus le comportement que j'avais reçu de son côté. C'est pas le fait que je vis chez vous encore qu'on doit me parler mal. Voilà.
Donc tu pars.
Donc j'ai décidé de partir, mais c'était surtout parce que je me suis rendu compte aussi que mes relations amoureuses, ils arrivaient à sa fin. Et je savais très bien que le jour, quand je dis que c'est fini vraiment pour vivre chez eux. Hein. Bien sûr, parce que c'était des gens avec le tempérament et je savais qu'elle va prendre très mal quand elle découvrira que son fils n'est plus avec moi. Parce qu'elle est sur son côté. Donc, je suis peut-être un peu trop dramatisée dans ma tête, mais finalement, c'était comme ça. Donc, voilà.
Quand t'arrives en juillet 2025, du coup, t'as un peu cette rupture qui va te permettre, au fur et à mesure des semaines et des mois, de redevenir toi-même.
Oui.
Un peu de renaître de tes cendres, finalement.
Oui.
Et là, avec du recul, évidemment, je pense que t'es heureuse, là, d'avoir pu...
Je suis heureuse. Très heureuse d'être en indépendance. C'est pas le fait que je les vois pas, c'est le fait que je suis indépendante. J'aimerais bien rester en contact, mais là, bon, c'est mon choix de pas trop se mettre en contact avec eux.
Pour pouvoir avancer.
C'est juste le fait que j'ai mes propres ailes maintenant. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Le fait qu'il m'a vachement aidé à redevenir moi-même, c'est vraiment les toutes premières semaines de rupture. En fait, dans ma tête, je faisais les plans, plan A, plan B, plan C, comment faire quand je vais partir. En fait, j'étais à table de repas et je n'écoutais pas, je réfléchissais juste à qu'est-ce que je vais faire. Genre, vraiment, je faisais les plans en mode qui appelait, qui parlait, quoi faire, où aller, tout ça. Et quoi faire comme démarche en plus pour les revenus et les titres des séjours. Est-ce que je dois avoir mon permis ou est-ce que je dois pas m'embêter avec ça? Qu'est-ce qui sera plus le moins énergivore possible? Comment je peux en fait économiser mon bien mental, mon santé mentale, enfin bien la garder et bien économiser mon énergie dans toute cette situation, parce que je savais que ça sera la merde. Et donc en fait, le jour quand je suis partie, le fait qu'il m'a fait trop du bien, même si c'était très stressant, c'est le fait que je suis partie, j'étais dans les stages, je faisais beaucoup de stages, parce que c'était aussi la pression par rapport au fait que je suis en France toute seule avec ma sœur, je sais pas, j'ai pas de réponse comment réussir dans mon métier d'artiste designer. Du coup, je me disais, là on a seulement 3 ans de licence, en Ukraine on a 4 ans, là il y a des opportunités des stages, il faut profiter pleinement. J'ai peur que quand je vais sortir licence, ça se trouve j'ai pas de master, machin, plein la tête qui tournait tout. Je me disais, il faut se caler,
faut
avec le travail.
Faut que tu puisses pratiquer, quoi, faut que t'aies une expérience.
Et en fait, un été, j'ai parti dans plusieurs endroits, j'ai vécu à Nantes, j'ai vécu au sud de la France, et j'ai vécu en Italie, en faisant des stages. Donc c'était un sacré bordel. J'avais essayé de me renseigner au max, comment se faire rémunérer pour mes stages, comment je peux partir, tout ça. Je prévenais ma mère et en même temps je me préparais, je passais le code. J'étais fait comme une folle, quoi. Et en fait, le fait que à côté, déjà je faisais des sacrées démarches pour ma indépendance, recherche logement, permis, travail. Renseignements pour obtenir ton salaire et tout, juste rencontre avec plein de nouvelles personnes, plus le fait que je voyageais toute seule, ça m'a carrément réouvert, ça m'a donné le ressentiment de ma propre puissance dans mes mains, ça m'a tellement renforcé, ça m'a donné un boost.
Ça t'a donné du courage pour partir?
Du courage, là c'était déjà je partais, quoi. Okay. Je savais que je mets mon appart à Angers. Juste, c'était vraiment des réglementations des frais, de tout, salaire, emprunt d'argent, des darons, des trucs comme ça. Je disais comment je vais tout payer, tout. Mais j'ai réglé au final. Donc ça va. Et ça m'a boosté avant de passer dans ma nouvelle année, l'année finale, L3. Je pense que je serai tellement mal si je ne serai pas en indépendance en dernière année. Je pense que c'est ça qui m'a poussé comme de le faire avant, genre, printemps, été. Parce que je savais que je devrais absolument être autre part que Hachelet pour L3. Voilà.
Ok. Et du coup, t'as quand même, là, ça fait quand même quelques années que t'es en France. Et t'as pu nous dire, au travers de conversations, que tu trouvais les pays bien différents, quand même. Enfin, qu'il y avait des différences assez marquantes.
Oui.
Notamment au niveau de la culture. Et toi, du regard que tu sens sur toi en tant que femme ukrainienne, malgré le fait que tu sens que c'est un pays dans lequel on t'aurait pu te sentir un peu plus en sécurité qu'en Ukraine par rapport au taux de criminalité, tout ça.
Oui. Donc, en Ukraine, c'est juste criminel tout court. Mais pas complètement, mais quand même le taux de crime est bien plus important qu'en France. En France, tu te sens plus en sécurité, mais tu te sens quand même tout le temps en sécurité parce que t'es pas chez toi. Donc, ça fait qu'en Ukraine, t'es habitué à cette, je sais pas, violence gratuite parfois sur les rues. Le fait que même t'es en risque par rapport aux violences sexuelles quelque part, ou je sais pas, qu'on tabasse ton copain. Enfin, c'est pas un ghetto non plus, mais pardon pour le mot, mais quand même. C'est pas pareil, parce qu'en France, là, carrément, t'es plus chez toi, donc vraiment, tu te sens émotionnellement plus vulnérable dans cette situation que quand tu sais juste que bah, elle a un taux de violence, de crime, et voilà, il faut juste faire gaffe. Là, quand t'es juste vulnérable devant tout le monde, mais genre mentalement, au niveau de ton expérience, faut faire gaffe à ce que tu sors comme mot, tout le temps, pas parce qu'on va te faire mal, mais parce que toi, tout seul, tu te fais mal, tu risques de te compromettre tous les secondes quand tu dis quelque chose qui va pas, quand tu dis une blague qui n'est pas marrante, quand tu fais un move très gênant, tu te dis voilà, je suis juste très vulnérable, quoi.
Voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que toi t'as ressenti en tant que femme originaire des pays de l'Est en France?
Je sais que c'est le problème pour tous, les Françaises aussi, mais parce que déjà c'est terrible parfois, mais j'ai l'impression qu'il y a un fantasme entier, et évidemment il y a, sur les femmes étrangères, donc ukrainiennes, les femmes de l'Est, et tu as une statistique qui a sorti récemment sur la violence par rapport à ta nationalité, violence sur les femmes ukrainiennes. Tu as une sur trois qui subit des violences sexuelles, donc directes, pas juste des agressions sexuelles en mode verbal ou quelque chose, mais carrément des violences sexuelles à l'étranger dû à sa nationalité et à sa situation de départ à vue de guerre. Moi, j'avais très peur pour ça. J'étais très consciente quand je partais de l'Ukraine. Déjà, c'est tellement chaud que même en Ukraine, tu sais qu'à l'étranger, les gens font les fantasmes sur toi. Depuis que tu parles aux pro-russes qui disent que les Ukrainiennes, ce sont des tanas. Qu'en Maïdan 2014, entre guillemets, t'avais beaucoup qui allaient se prostituer avec des footballeurs étrangers. Enfin, plein de saletés qui ont dit envers nous, gratuitement. Qu'on utilise des activistes de Femen, pour exemple, des activistes ukrainiennes qui ont aussi manifesté en Europe, comme un exemple de femmes vulgarisées, des femmes sans les valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Est-ce qu'un homme peut m'expliquer qu'est-ce que c'est ces valeurs? Donc voilà. Et donc moi je savais très bien qu'il suffit que je ne fais pas assez attention quand je choisis ma famille d'accueil ou un mec sur Paris qui m'héberge. Allez hop, on retire ton passeport et tu travailles, t'es enfermé chez moi et tu travailles, on sait pas où, dans le meilleur des cas juste de manière illégale, mais de pire cas, on te engage dans une prostitution, on fait un trafic de main avec toi. Ça arrive à beaucoup des Ukrainiens qui partent à l'étranger. Moi, ma mère, quand elle voulait partir, elle a reçu une proposition très louche plusieurs fois pour travailler en tant que valet de chambre, un truc comme ça, sur Telegram, sur tous les moyens de informations pas conformes pour trouver le taf. Et quand tu regardes, tu te renseignes qui sont ces personnes, tu te rends compte que c'est des fakes ou c'est juste des personnes assez louches. C'est des Ukrainiens, souvent, ou c'est ceux qui se cachent disent qu'ils sont ukrainiens pour récupérer ta confiance. Et nous, quand on cherche sur Internet comment se passe le trafic de personnes, le trafic de sexe avec des Ukrainiens, ça commence exactement comme ça. On te propose de faire le valet de chambre ou travailler juste à l'étranger, on ne sait pas où, faire le danse, tout possible, genre, avec le logement, la nutrition fournie par ton employeur. Bah, tu sais bien que ça commence comme ça, que les gens, après, ils n'ont plus des papiers et ils sont réclamés disparus.
Et toi, tu as déjà eu des propositions louches ?
Moi aussi, j'ai eu des propositions
louches. France.
En France, dans une boîte, on m'a proposé de travailler dans un hôtel, pareil, valet des chambres, en mode...
Et c'était lié à ta nationalité ?
C'était lié à ma nationalité. La femme se présentait en tant que femme de l'Est, donc peut-être elle m'a menti pour récupérer mon confiance. Ils m'ont relancé même, ils ont osé de me relancer plusieurs fois sur WhatsApp parce que j'ai donné mon numéro de téléphone, je sais pas, j'étais un peu bourrée, j'étais en mode... Vas-y, j'étais pas d'accord dès le début, mais je voulais donner le numéro de téléphone pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi, qu'est-ce qu'ils vont m'écrire comme chose après. Et en fait, ils voulaient me relancer absolument pour que je revienne, pour que je leur reparle et tout, c'est horrible. Et la femme qui se présentait en tant que femme de Lituanie, je sais plus quoi... m'a dit que mais nous, on a beaucoup des Ukrainiennes qui travaillent chez nous, on travaille dans le réseau d'hôtels. Donc tu pourras travailler chez nous si jamais tu as besoin de travail, de stage. Quelque chose de bien louche. Je crois qu'il me proposait de travailler dans un bus hôtel, un truc comme ça. Bref, c'est bizarre, bizarre. Mmh. Pareil pour ma mère, on l'avait proposé en plus d'aller à Côte d'Azur, garder les maisons. Des qui, des quoi, en coup du non-name, vraiment, c'est très louche. Les propositions sur Telegram, toujours. Et okay. Juste, c'est comme ça. Je m'inquiète parce que on peut calculer très rapidement que je viens de l'Est, par mon physique, etc. Quand je sors dans les bars des boîtes, je fais extrêmement gaffe parce que souvent les conversations commencent par oh, t'as un petit accent ou t'as une tête, évidemment tu viens de l'Est. Ou même la façon dont tu tiens la clope ou des verres, on m'avait déjà dit, on dirait que t'es une meuf de l'Est. Mais quoi, mec, mais j'ai pas envie de dire oui, je viens d'Ukraine. Pas dans ce moment-là. Ou quand j'avais travaillé dans le bar, je devais faire extrêmement gaffe à ma nationalité. Je disais que je viens du Madagascar. Poto, pourquoi tu veux savoir d'où vient mon petit accent Tu sais ce qui se passe dans le monde, je sais pas. Évidemment que soit je suis russe, soit ukrainien, soit biélorusse, mais toutes les trois, je pense, ils n'ont pas trop de position là pour dire en France d'où elles viennent. Parce que tous les trois risquent de se prendre dans la gueule gratuitement, juste pour sa nationalité, son passeport.
Et là, tu commences à te réaffirmer en tant que...
Oui, mais j'ose jamais dire que...
Oui.
Jamais je parle de mes origines dans les soirées comme ça, ça m'agace. Une fois, il y avait un client dans le bar, un petit papy qui est bien sympa, mais il avait quelque chose de bizarre dans son comportement, et on m'avait bien prévenu de ça. Une fois, quand j'étais réallée dans le bar pour prendre un verre avec mes potes, il était derrière, et il m'a juste... lancé quelques phrases, je sais pas de quoi elle parlait, j'ai commencé à parler en rigolant un peu parce que je rigolais tout le temps avec lui. Et c'est ma façon aussi de se rassurer, parfois je préfère de parler que de faire réserver, que ça te rassure plus du fait que t'as pas de séduction parce que t'es déjà ouvert au max, donc le mec il va plus trop fantasmer, en fait c'est bizarre, c'est ta stratégie aussi de protection en fait. Donc moi je lui parle et tout, et après à la fin il dit vraiment une phrase très mystérieuse comme quoi il savait où je vis. Je croyais de pas bien entendre et je savais pas quoi faire de cette info. Je lui ai dit mais mec tu sais où je vis? Il a rigolé, il a fait comme s'il avait pas entendu ou il a vraiment pas entendu, et j'étais obligée de repartir voir mes amis parce que j'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire en fait. Mais ça m'a bien flippé.
Et donc, ça c'est quelque chose, c'est une des différences dans les deux pays que tu retrouves.
Mais pas même la différence avec deux pays. Je peux raconter bien d'autres histoires. T'as la haine des Russes envers les Ukrainiens. Moi j'ai une personne, d'ailleurs elle se réapparue il y a pas longtemps. C'est un mec sur internet, on sait pas qui c'est. juste un no-name russe qui me suit parce que je suis une Ukrainienne. En fait, avant, il m'avait harcelé carrément sur Internet. Il allait suivre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que fait ma sœur par les réseaux. Il allait me lancer plein de messages sur mon téléphone. Il allait essayer d'avoir l'accès à mes comptes, à mon ordinateur, à mon webcam. C'est un truc de malade. Un pirate russe fou qui veut suivre ma vie. Parce qu'il déteste les Ukrainiens, les Ukrainiennes notamment, surtout. Et là, ça fait pas longtemps, il m'a relancé sur le message en mode « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Et là, j'ai découvert que, comme d'habitude, il savait très bien qu'est-ce que j'ai fait comme stage, où j'ai fait des études, combien de personnes vivent dans ma ville. Donc c'est vraiment un truc quand même, la haine envers des Ukrainiens.
Pas un truc qui nourrit seulement en France, quoi.
Oui, et des menaces de me suivre. Et carrément, une fois, elle était venue dans ma ville pour me suivre. Donc c'est bien flippant. Je l'avais vue à mes propres yeux, avec mon copain.
Horizon, un mardi par mois, sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Oui, il faudra couper. Du coup, on va voir.
On va couper.
Là, du coup, je vais te poser la question, malgré ces événements, tout ça. On essaye d'être assez rapide.
Oui, vas-y. Là, on va être rapide.
Donc, malgré tous ces événements, Yuliana, tu continues de grandir et de gagner en maturité. Quels horizons t'ont apporté ces bouleversements dans ta vie ?
Bah, le fait de vivre une expérience fou et incroyable, assez jeune, de déménager, d'avoir ma propre indépendance, mais de manière assez violente, mais ça m'a permis d'avoir un passage peut-être celui qui est vécu pas de manière agréable, celui qui était nécessaire quand même. Je le regrette, mais en même temps, je pouvais pas faire mieux. Je l'avais déjà dit. En fait, c'est rassurant de te rendre compte que t'as déjà passé par ça, parce que dans la vie, parfois, on passe ces moments où on est face à l'isolation, on est face à des choses assez dark. Et ben on est obligé de les passer. C'est comme ça dans la vie, t'as les traits un peu noirs. Et après, ça ira mieux. Là, t'as déjà vu que, clairement, c'est pas fini pour toi. Et là, toujours, la vie après, ça, en fait, c'est même incroyable. Parce que, malgré que c'était dur, c'est de l'expérience et ça me renforce beaucoup. Et je peux être fière du fait que ça m'a donné aussi beaucoup de renforce en étant si jeune. Et c'était quand même plein des aventures, plein des rencontres tellement différentes. Et voilà, j'ai une ouverture d'esprit pro max maintenant. J'ai commencé des études sup dans un nouveau contexte. Sans rien, c'était très enrichissant pour moi. Et là, je veux poursuivre. Donc ça fait preuve que je lâche pas, en fait. Et que je peux faire ce que je veux. En fait, c'est ça qui est libératrice. C'est le fait que tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi bien rester que rentrer. Mmh. Ou aller même dans autre pays. Maintenant que tu sais que c'est pas si dur maintenant. Vu que tu t'es développé. Voilà. Et la réunion des familles. Malgré ces événements. C'est aussi très renforçant.
Le fait que ta maman vous ait rejoint.
Oui. Le fait que vous vivez à peu près des mêmes choses et tu peux rassurer ta famille que c'est pas grave, ça va aller. Et juste, t'as tes repères en tant que ta soeur, ta mère, même ton père, même tes grands-parents, peu importe où on se trouve, les distances. Tu valorises plus ces personnes-là en tant que tes repères, et l'inverse, eux aussi, ils te valorisent plus. Enfin, ça crée des connexions très, très proches, très mignons. Ça m'a permis de juste lâcher beaucoup de petites colères, de merde, quand on est ado, voilà. Et juste devenir plus mature et plus cool.
Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'enfant que tu étais ?
Rester une meuf bizarre. Parce que tout le monde s'en fout, en fait. Juste rester soi-même, tout le temps. Et se dire que les choses qui appartiennent à toi-même, c'est les choses les plus... qui ont les plus de valeur dans la vie. Faut toujours nourrir ton petit monde, ton petit univers entier à l'intérieur de toi et jamais oublier que bah, c'est ça qui est important, qui te fait vivre. Et voilà, c'est ton gaz.
Trop chouette. Voilà.
Faut être celui qui t'encourage dans la course et pas celui qui dit oh, ma naze.
Est-ce que pour clôturer cet épisode, tu as une recommandation ou une ou plusieurs recommandations culturelles à nous faire, à nous partager?
Ok, donc j'ai une avec film, livre et musique. Donc première, le film, ce sera Intercepté de Oksana Karpovitch, K-A-R-P-O-V-Y-C-H, son nom. Donc Intercepté, c'est un film documentaire sur les civils ukrainiens accompagnés de pistes de interceptions, je sais pas, des écoutes, de conversations téléphoniques de soldats et de leurs familles. Je crois aussi bien de côté russe que de côté ukrainien, mais surtout de côté russe, il y avait dedans. Donc ça t'expose à tous les crimes les crimes de guerre faits avec des civils, et ça t'expose au fait que les gens qui leur commissent, c'est pas juste des marionnettes de régime ou quoi que ce soit, c'est des gens très 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 conscients souvent de ce qu'ils font, et les gens qui haignent. Et quand tu écoutes les conversations avec leur famille, tu te rends compte des mentalités qui peuvent se créer pendant les temps de conflit. La haine pendant la guerre, c'est vraiment un truc terrifiant. Quand la femme, elle dit de violer les femmes ukrainiennes, des trucs comme ça, très dark, tu te rends compte que c'est pas la seule personne qui a pris la décision de commettre quelque chose d'horrible. C'est vraiment le truc des familial et encore plus grand partout. Voilà. Deuxième, c'est un livre, Susan Sontag. C'est une essayiste allemande, je crois. Donc, ça s'appelle Devant la douleur des autres. Désolée, ça parle de guerre, les filles, mais c'est très pertinent. Donc, c'est un bon essai sur la photographie en temps de conflit. Et donc, elle parle de façon dont la photographie de guerre de la journalistique, elle nous a réouvert la façon de percevoir des choses, de se sensibiliser aux situations. Et elle critique aussi un peu cette manière de partager à travers la photographie, parce que ça met en distance un et un contre les autres. Donc c'est un bon essai sur la photographie, et ça a beaucoup de bons refs historiques, parce que c'était écrit dans les années, je crois, 70, 80. Voilà, juste quelques dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Tsukurbi la Smerte, c'est un ref musical. Donc Tsukor, T-S-U-K-O-R, Bila, B-I-L-A, Smerte, S-M-E-R-T. C'est une groupe musicale expérimentale en Ukraine qui était née dans les années 90. Ils avaient enregistré dans le je sais plus quel record, une studio d'enregistrement polonaise. Et ils sont été nés en vue de la dissolution de l'URSS et du fait qu'il y avait de la grosse censure de la musique, de toute la culture ukrainienne dans les années de l'URSS. Là, ils sont libérés un peu, et même avant que l'URSS soit dissous, ils allaient enregistrer en Pologne, etc. Et puis, c'était vraiment ceux qui ont ouvert la scène expérimentale ambient, électronique, folk, ukrainienne.
Ok,
dans
trop
les
chouette.
Pays de l'Est. C'est très bien. Svitlana Nino, elle s'appelle...
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Horizon. Nous étions avec Juliana et Justine en régie. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Horizon. Tu peux retrouver l'épisode sur le www.radiocampusangers.com ou sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.